Une excellente fête aujourd'hui. Le titre du message, Pentecôte et loi de liberté. Pentecôte et loi de liberté. Il y a déjà un bon bout de temps que je mijote ce concept qui est vraiment fondamental au plan de Dieu. Comme nous allons le voir, la Pentecôte, c'est la fête de Dieu qui est directement liée à sa loi et automatiquement en même temps liée à la liberté totale dans laquelle Dieu veut amener un jour tous les humains qui acceptent de vivre justement selon sa loi de liberté. Mais on va voir que la liberté que Dieu a en tête, c'est une liberté absolue et totale. Nous n'avons pas encore ce type de liberté en ce moment. La société moderne, elle parle beaucoup de liberté. Elle crie même ce mot lors des parades ou lors des manifestations concernant tous les aspects de la vie. Toutefois, il est évident qu'il ne s'agit pas là de la liberté voulue par Dieu dans ses commandements. Absolument pas. On ne parle pas de la même sorte de liberté, vous allez voir. Voyez-vous, si l'ensemble de l'humanité cherchait la vraie liberté en vivant selon les lois de Dieu, la société deviendrait réellement libre, comme nous allons voir. C'est-à-dire qu'elle serait libérée, qu'elle serait exempte de toutes les conséquences des transgressions des lois de Dieu. Il n'y aurait pas de haine, il n'y aurait pas de violence, il n'y aurait pas de meurtre, ni de vol, ni de mensonge, d'infidélité. Il n'y aurait plus de solitude parce que les gens s'occuperaient les uns des autres. Il n'y aurait plus de dépression et il n'y aurait plus des autres plaies modernes qui sont les résultats de transgression des lois de Dieu. Comment la société définit-elle la liberté? Vous allez comprendre, on le sait, on le voit. Les gens dans le monde définissent la liberté simplement comme ceci. Nous voulons faire ce que nous voulons, comme nous le voulons et quand nous le voulons, indépendamment de ce que les autres pensent ou font autour. C'est de cette façon-là que la société définit la liberté, sans aucune règle et sans aucune contrainte. Et on remarque que plus on avance dans le temps, plus les gens rejettent toute contrainte et toute règle et même toute autorité. On est rendu là dans l'histoire humaine. Voyez-vous, penser être libre tout en rejetant les lois de Dieu, c'est le piège de misère, de souffrance et de douleur dans lequel le monde s'est enfermé depuis Adam et Ève. Le piège qui retient la société captive, comme c'est précisé dans la Bible. Et ce faisant, l'humanité continue de se donner l'autorité de décider, de déterminer, de choisir ce qui est bien et ce qui est mal, selon chacun. Et là, il y a opposition entre les chacun, parce que justement, chacun veut faire comme lui pense, ce qui est souvent contraire à ce que son voisin pense et veut faire, avec les résultats malheureux que nous connaissons. Parce que les mauvais choix engendrent toujours les mauvais résultats qu'on voit. Heureusement, Dieu a un plan. Il l'appelle son plan de salut. Mais si on le met dans des mots peut-être plus directement compréhensibles, c'est un plan de sauvetage. C'est un plan de sauvetage pour l'humanité qui est justement captive et qui est esclave de ses choix et de ses comportements dévastateurs. Dieu veut libérer tous les êtres humains de ça. À la Pentecôte, et là on va le voir à deux occasions spéciales dans l'histoire, à la Pentecôte, Dieu a proclamé sa loi avec éclat. Et vous allez voir pourquoi. Lors des deux Pentecôtes principales qu'on voit dans les textes, il l'a fait avec autant de puissance et de manifestation de sa majesté. parce qu'il a proclamé, en faisant ça, la loi de liberté. On voit dans la Bible que lors de la première Pentecôte de l'Ancien Testament, qui était le début de l'Ancienne Alliance, de même que lors de la première Pentecôte du Nouveau Testament, qui était le début de la Nouvelle Alliance, Dieu a chaque fois marqué de son sceau, avec éclat, l'importance majeure de l'événement. Pourquoi? Parce que dans les deux cas, c'était centré sur ses 10 commandements. Et pour lui, c'est essentiel. Les 10 commandements, c'est quoi? C'est le reflet de ce qu'il est, de son caractère, de sa nature, là où il veut amener tous les êtres humains qui acceptent de faire sa volonté. Et chaque fois, il a marqué de son sceau avec éclat l'importance de l'événement parce que c'est l'expression de son caractère, de ce qu'il est. Et c'est la description de la voie que nous devons suivre, nous, pour atteindre cet objectif merveilleux qu'il a pour nous. Puis en même temps, bien sûr, comme on sait par les textes, c'est la base du monde de demain, quand les choses seront totalement changées. Voyons d'abord ce qui s'est passé au mont Sinaï, à la première Pentecôte de l'Ancien Testament. Reportez-vous au livre d'Exode, s'il vous plaît. Exode, le chapitre 19. Exode, chapitre 19, lors de la première Pentecôte au mont Sinaï. Lisons les versets 16 à 18. Le troisième jour au matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu, et ils se placèrent au bas de la montagne. Le mont Sinaï était tout en fumée, comme un volcan. Imaginez pourquoi il était dans l'épouvante, là. Tout en fumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Voilà ce qui s'est passé lors de la première Pentecôte de l'Ancien Testament. Et c'est à cette occasion que Dieu a fait connaître ses lois, justement, à Israël. Il les a fait connaître sous forme codifiée, les 10 paroles ou les 10 commandements, comme on voit dans le chapitre suivant. Exode 20. Reportez-vous à Exode 20. Nous allons lire le premier verset. Alors, dans la circonstance que je viens de vous donner, le jour de la Pentecôte, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Ce que Dieu leur disait ici, c'est que « Je vous ai libéré là physiquement de l'Égypte. Maintenant, je vous donne un code de conduite, de sorte que si vous l'appliquez, vous serez libéré spirituellement, ce dont vous avez besoin encore plus que la libération physique. » Et après, il leur donne ces 10 commandements. Regardez le verset 3. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Verset 4. « Tu ne feras point d'image taillée. » Verset 8. « Souviens-toi du jour du repos. » Et ainsi de suite. Et après, il procède aux autres commandements, les 6 derniers qui concernent nos relations entre êtres humains. Les 4 premiers, c'était la définition de nos relations avec Dieu, alors que les 6 derniers, c'est nos relations les uns avec les autres. Alors, le fait de mettre en pratique les 10 commandements, c'est la seule façon de vivre qui peut rendre réellement libre et, comme on le verra, qui peut rendre réellement heureux totalement, en bout de ligne. Voyons à présent ce qui s'est passé lors de la première Pentecôte du Nouveau Testament. Vous allez voir les liens entre les deux. Encore une manifestation éclatante de Dieu pour souligner l'importance essentielle de ses lois qui sont au cœur de son plan. Reportez-vous au livre des Actes, s'il vous plaît. Actes, chapitre 2. Actes, chapitre 2. Et nous allons lire les versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, comme nous aujourd'hui ici. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Voilà. Alors, encore une manifestation éclatante de Dieu. Cette fois-ci, il a donné son Saint-Esprit à ceux qui étaient devant lui et qui avaient été appelés à former son Église. Et c'est la première occasion où Dieu a donné son Saint-Esprit à un groupe de personnes. C'était la naissance de son Église, de l'Église de Dieu du Nouveau Testament. Encore un événement directement lié à ses lois et à la liberté. Puis regardez ce qui vient après. Qu'est-ce qui s'est passé après cette journée-là? L'apôtre Pierre a donné un sermon puissant qui a touché le cœur des gens, de sorte qu'ils ont dit, oui, on est responsable de la mort du Christ. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que Pierre leur a dit, dans le fond? Il leur a dit, repentez-vous. C'est la première chose qu'il leur a dit. Repentez-vous. Donc, en d'autres termes, ça se reliait directement aux lois de Dieu. Il leur disait, cessez de transgresser les lois de Dieu. C'est ce qu'il leur a dit. Regardez le verset 38. Verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. C'est là qu'on est pardonné de nos fautes. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, la puissance de Dieu. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui, au loin, comme c'est notre cas aujourd'hui, nous sommes au loin dans le temps par rapport à ça, pour ceux qui, au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. Formidable. À partir de ce jour-là, la Pentecôte a symbolisé le don du Saint-Esprit accordé aux êtres humains qui se repentent. À partir de là, c'est ce qui s'est passé. Notez bien, et je vous le rappelle, je l'ai mentionné tantôt rapidement, mais dans l'Ancien Testament, seuls quelques individus, quelques personnes avaient reçu le Saint-Esprit de Dieu. Seulement quelques personnes. Et ils avaient reçu le Saint-Esprit de Dieu individuellement, un à la fois, alors que le jour de la Pentecôte, c'était différent. Alors voyez-vous, nous sommes, vous et moi, les heureux récipiendaires de cette bénédiction incroyable. Et ça, c'est le fondement de votre espoir et de mon espoir. C'est le but de la vie qui nous est révélé à travers ça. Je vais vous citer simplement Romains 5, verset 5, l'espérance. Romains 5, verset 5, l'espérance ne trompe point. On peut être certain de ce qui nous est dit. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Il nous a donné cet amour-là par son Saint-Esprit pour qu'on soit capable de le développer. Le même amour que lui, qui va nous amener là où il veut nous amener. Et voyez-vous, par la présence de son Saint-Esprit en nous, c'est à ce moment-là, comme vous le savez, que nous sommes engendrés de Dieu. C'est à ce moment-là que nous recevons un peu de sa nature, un peu de Dieu en nous. C'est ce qu'on reçoit quand on reçoit son Saint-Esprit. Et nous devenons, à ce moment-là, un peu de ce qu'il est. Nous devenons un peu divin, parce que nous recevons sa nature. Ainsi, il nous devient possible de plus en plus de développer sa nature, son caractère. D'ailleurs, l'apôtre Pierre le décrit clairement dans 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1. C'est très bien dit ici. Nous allons lire les versets 3 et 4. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc, quand Dieu nous appelle et qu'on passe par les eaux du baptême, il nous donne tout ce dont nous avons besoin pour arriver au but. On ne peut pas dire à Dieu, je suis pas capable. Faut préciser. On peut dire à Dieu, seul, je ne suis pas capable. Mais comme tu mets ton amour en moi qui est ta puissance, je sais que je peux compter sur toi. Et c'est seulement toi qui vas m'amener à terme si moi, je fais ma part comme tu me montres. Il contribue à la vie, à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Verset 4. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Pourquoi? Afin que vous deveniez participants de la nature divine. Et on peut ajouter, afin que nous devenions de plus en plus participants à la nature divine, jusqu'à un jour être totalement de nature divine. On voit la progression du plan dans ça. Et comment? En fuyant, ça c'est notre part, en fuyant la corruption qui existe dans le monde. En fuyant la corruption qui existe dans le monde, c'est cette corruption qui nous rend prisonniers, qui nous rend captifs et qui nous fait tellement souffrir. Voilà encore le chemin vers la vraie liberté totale qui nous sera accordée si nous tenons jusqu'au bout. Fuir quelque chose, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'en libérer. On parle encore de liberté. Fuir quelque chose qui nous retient captif, c'est s'en libérer, partir de là. Comment? Par nos propres forces? Non. Je viens de vous le mentionner. Par l'action de Dieu en nous. C'est la seule façon. Et c'est pourquoi, chaque jour, on doit demander à Dieu de renouveler sa puissance en nous. Parce que chaque jour, on en a besoin. Et ça sera de plus en plus vrai d'ici la fin. Et il le fait, parce qu'il veut nous amener à terme. Alors, il répond à nos prières, et ça, c'est tellement encourageant. Pour nous soustraire, pour nous libérer, dans le fond, du contrôle exercé sur nous, un, par Satan, parce que lui est à l'œuvre 7 jours par semaine, 24 heures par jour, 365 jours par année, nous libérer de Satan et nous libérer de notre nature humaine, pécheresse et sans force. Au point de départ, on n'a aucune force. C'est sur la force de Dieu qu'on doit compter. Et il nous la donne si on fait l'effort, même si nous ne sommes pas parfaits, de vivre selon ses lois. Alors, c'est pour ça que la Pentecôte représente notre libération par le Christ vivant en nous. Reportez-vous à l'Évangile de Jean maintenant. L'Évangile de Jean, 8e chapitre. Jean 8, et regardez le verset 36. Si donc le Christ vous a affranchi, et lors de notre baptême, le Christ nous a affranchi de l'amende qui pesait sur nos épaules, l'amende de la mort éternelle, il nous a libérés de ça, et il veut nous libérer de tout le reste de ce qui nous tient captifs. Si donc le Fils vous affranchi, vous serez réellement libre. Vous serez réellement libre, c'est-à-dire que votre liberté va augmenter. Et vous allez aller vers la liberté totale que Dieu veut pour vous. Reportez-vous à Jean chapitre 14, juste un peu plus loin. Jean chapitre 14, s'il vous plaît. Juste avant sa mort. Voyons ce que Jésus a promis à ses fidèles disciples à ce moment-là et ce qu'il promet à vous et à moi aujourd'hui. Jean 14, versets 15 et 16. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Voyez-vous, ça c'est notre base, là. Et regardez le verset 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur de Saint-Esprit, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et c'est tellement enthousiasmant dans ce contexte-là de voir qu'il y a une implication totale dans ce processus-là, de la part non seulement du Christ, mais du gouverneur de l'univers lui-même, celui qui a décidé de vous attirer à Christ, personnellement, en mentionnant votre nom dans la salle du trône, chacun de vous, et moi aussi. Il y a une implication totale des deux. notre père et notre grand frère. Pour nous et en nous. Regardez l'encouragement au verset 23 du même chapitre 14. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Mais vous, Dieu réagit à ça aussi, non seulement le Christ. Ils sont ensemble dans ce grand projet. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Voyez-vous comment c'est formidable? Voilà ce qui nous garantit non seulement notre libération progressive pour le moment en toute chose, mais si nous persévérons, ça nous garantit la libération totale qui s'en vient. C'est ce que ça nous garantit. À quel moment? Reportez-vous à 1 Corinthiens chapitre 15. Un passage que vous connaissez très bien. 1 Corinthiens chapitre 15. À quel moment cette liberté totale nous sera accordée? 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50. Et on va lire un peu après. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption, ce qui est notre cas actuellement, n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, ceux qui vont être encore vivants au retour de Christ. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, à la septième trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous, nous serons changés. Nous deviendrons à ce moment-là des êtres spirituels. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité, comme c'est mentionné ici. Et regardez au verset 57 et 58. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire. Voyez-vous la victoire d'où elle vient? On ne pourra pas se vanter devant Dieu d'avoir réussi lorsqu'on sera rendu dans le succès final. Ça viendra de lui. Mais aura fallu faire notre part. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables. Et c'est pas toujours facile, mais c'est là qu'est le rôle de la persévérance. À travers les hauts, les bas, les moments de découragement, de doute, et ainsi de suite. Le fait d'être tenace, de continuer en suppliant Dieu de nous donner son esprit. Soyez inébranlables, travaillant de mieux en mieux, voyez-vous, il y a une progression à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Maintenant, je vais vous poser une question, puis je vais vous amener sur un autre terrain pour que vous voyez ce qui va se passer dans le futur. À quoi ressemblera notre liberté totale, celle dont je vous parle dans le message aujourd'hui? Au moment où nous naîtrons dans la famille de Dieu. Ça fait rêver. Ça fait vraiment rêver. Qu'est-ce que ce sera notre liberté totale? Nous serons entièrement et définitivement libérés de toute maladie, de tout accident, possible, libérés de toute solitude. Nous serons libérés de toute crainte, de tout souci, de la pauvreté. Nous serons libérés des incertitudes économiques que nous connaissons en ce moment. Nous serons libérés de toutes les injustices possibles. Nous serons libérés aussi de toutes nos culpabilités et de tous nos sentiments de culpabilité qui nous hantent parfois. Et dont l'adversaire se sert pour nous ralentir. Nous serons libérés de ça totalement. Nous serons libérés aussi de tous les sentiments qui nous amènent parfois à nous dire qu'on n'est pas à la hauteur. On sera libérés de ces sentiments-là aussi. On sera libérés de toute ignorance. Quand on fait la liste de la grande libération qui s'en vient, c'est fantastique. Et c'est bon qu'on le voit, parce que notre encouragement, il est là. On vit à l'intérieur de toutes ces limitations-là et de toutes ces choses-là qui pèsent sur nous. Nous serons libérés de toute ignorance. Nous serons libérés de toute fatigue physique, morale, émotionnelle. Nous serons libérés de toutes ces choses-là. C'est un avenir fantastique que Dieu a en tête pour nous. Nous serons libérés de toute tentation possible. C'est difficile d'être tenté de voir l'adversaire nous mettre des pièges partout et d'avoir cette lutte constante. Mais nous serons libérés de toute tentation. Nous ne serons pas attirés par le mal. Nous ne serons plus attirés par le mal. Est-ce que vous auriez le goût aujourd'hui de vous mettre la main dans le feu? Non, hein? Ce sera exactement la même chose quand nous serons rendus à cette étape-là. C'est que le mal va nous repousser autant que le fait de se mettre la main dans le feu. Parce qu'on en connaît le prix et nous, on en a connu le prix dans notre vie aussi. Et le Christ, par-dessus tout, lui a connu le prix de ce que ça l'a coûté. On sera libérés également de toutes nos limitations. Et là, je ne ferai pas la liste parce qu'il y en a beaucoup. On sera libérés de toutes nos limitations. Et ça va aller loin. Parce que nous serons libérés de nos limitations en ce qui concerne le temps et l'espace. Libérés de nos limitations en ce qui concerne le temps et l'espace. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, comme la Bible nous le montre, nous allons pouvoir voyager à la vitesse de la pensée, n'importe où à travers l'univers. Il y aura une autre dimension qui va s'ouvrir pour nous, parce que ces limitations-là ne seront plus là. Elles seront enlevées totalement. Nous serons libérés de toutes les souffrances possibles. Et plus que ça, comme vous le savez, nous serons libérés de la mort. Parce que ce sera chose du passé pour nous, ça ne pourra plus être possible pour nous, absolument. C'est intéressant parce que l'apôtre Jacques nous montre quel est ce chemin de la vraie liberté à nous qui sommes encore physiques, qui sommes encore charnels et encore limités. Reportez-vous à Jacques, s'il vous plaît. Jacques, le chapitre 1. Jacques, chapitre 1, on va lire seulement le verset 25. Et vous allez voir par rapport au message qu'il y a une perle ici, là. Jacques 1, 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, les 10 commandements de Dieu. Et après, il donne un synonyme de cette loi parfaite. C'est de ça que je vous parle aujourd'hui. Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, c'est-à-dire la loi de la liberté, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, je reviens à cette persévérance, nous on a besoin de tenir le coup, et qui aura persévéré à s'améliorer dans l'obéissance aux lois de Dieu, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans ses activités. Dans la vie présente et totalement au moment où nous aurons traversé de l'autre côté. Paul l'explique aussi. Reportez-vous à 2 Corinthiens, s'il vous plaît. 2 Corinthiens, Paul en parle dans ses propres mots à lui. 2 Corinthiens, chapitre 3. Et nous allons lire le verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit, là où son Esprit est placé, là est la liberté. Vous avez ici une déclaration très profonde qui comprend l'essence du plan de Dieu. L'Esprit de Dieu, sa présence en nous, c'est la puissance. C'est la puissance qui peut nous libérer de la domination de la chair. C'est ça. Et c'est la puissance qui peut nous rendre libres, vraiment capables d'adopter et d'intégrer la pensée de Dieu pour la faire nôtre. Penser comme il pense, devenir vraiment comme Dieu. Ça, c'est un don d'une valeur inestimable que Dieu met en nous, qu'on peut appeler la lumière resplendissante de la vérité. 2 Corinthiens 4, vous êtes tout proche? Allez à 2 Corinthiens 4, on va lire les versets 6 et 7. Car Dieu qui a dit, « La lumière brillera du sein des ténèbres. » Où est-ce que Dieu met sa lumière en ce moment? Dans le cœur de ceux qui l'appellent, qui se convertissent, qui sont baptisés, qui reçoivent son Saint-Esprit. Dieu met sa lumière dans leur cœur. C'est ça. Et nous donnons des exemples autour. La lumière brillera du sein des ténèbres. Ce Dieu-là a fait briller la lumière dans nos cœurs. C'est ce que je vous explique. Pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Pour que ça revienne à la gloire de Dieu et à la gloire du Christ. Voyez-vous comment tout se tient merveilleusement dans le plan de Dieu. Pour que nous développions sa personnalité, son caractère, mais à sa gloire. Revenons maintenant juste un peu avant la colonne d'avant dans 2 Corinthiens 3, le verset 18. Je vais vous lire la première partie du verset qu'on trouve dans la version Louis II et ensuite je vais vous donner le sens originel. Nous tous dont les visages découverts reflètent la gloire du Seigneur. Ça, ce qui est écrit dans la Louis II. Je vais vous donner ce que le texte original et la version King James donne. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Ben oui, on la contemple. On apprend à la découvrir à travers sa parole. Il nous apprend à le connaître davantage et on contemple sa gloire. Et cette gloire-là, on l'admire et on veut l'adopter. On veut devenir animé de cette chose-là, de cette gloire-là aussi. Alors donc, nous tous qui, le visage découvert, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur pour devenir comme lui. Maintenant, lisons la deuxième partie du verset 18. Nous sommes transformés en la même image, en son image à lui, de gloire en gloire. C'est progressif par l'Esprit du Seigneur. Et là où est l'Esprit du Seigneur, comme on a vu, là est la liberté. Et là est le chemin vers la liberté absolue qui nous attend. Comment faire notre part pour y arriver? 2 Corinthiens chapitre 6, juste un peu plus loin. 2 Corinthiens chapitre 6, lisons les versets 17 et 18. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, en parlant de la société autour de nous. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Dans le fond, cessez de faire ce que vous faisiez autrefois, en vous conformant aux transgressions de la société. Sortez de cette façon de vivre. Sortez de cette façon de faire. Adoptez mes commandements. Ne touchez pas ce qui est impur. Et je vous accueillerai. C'est Dieu qui parle. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. Voyez-vous le chemin pour entrer dans la famille de Dieu? C'est toujours le même. Mais il y a une profondeur extraordinaire quand on analyse de quelle façon ça se produit et comment Dieu travaille avec chacun de ses appelés. Et il nous encourage en nous montrant comment ça fonctionne et comment il opère. Regardez le premier verset du chapitre suivant. 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Rejetons tout ce qui est contraire aux lois de Dieu, même si nous devons continuer à vivre dans cette société de plus en plus méchante et de plus en plus hostile au grand Dieu de l'univers. Il a permis qu'on vive à l'intérieur de ça, parce que c'est une façon aussi de développer vraiment son caractère dans des situations hostiles. comme un athlète qui doit soulever des poids pour se faire une musculature. Et Dieu voit à travers ça qui veut vraiment lui appartenir. Malgré les difficultés, malgré les épreuves autour, malgré les choses inquiétantes qui se passent, de garder les yeux sur Dieu, sur son plan et sur la bonne nouvelle de ce qui vient, plutôt que sur les mauvaises nouvelles du monde qui se multiplie à tous les jours. En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. On est en train de faire ça. On continue d'avoir ce respect profond pour notre Créateur et on continue de travailler à changer. Voici encore le chemin à suivre vers la liberté totale à venir. Nous ne l'avons pas encore. La liberté totale, elle est à venir. À la première Pentecôte de l'Ancien Testament, Dieu a donné ses lois, les 10 commandements, sous forme de code cette fois-là, gravés dans la pierre. Toutefois, vous savez par les textes que les Israélites n'avaient pas en eux la force spirituelle nécessaire pour pouvoir en vivre. Et c'était voulu par Dieu parce que ça démontre justement que sans son esprit, on ne peut pas y arriver. C'est un des aspects qui a été démontré par ce que les anciens Israélites ont vécu. Ça prouvait hors de tout doute que les humains sans l'esprit de Dieu ne peuvent pas obéir aux lois de Dieu. Par contre, à la première Pentecôte du Nouveau Testament, pour la première fois, Dieu a donné son Saint-Esprit à un groupe de personnes, son Église naissante du Nouveau Testament, pour les appeler qui choisissent d'en vivre, pour qu'ils soient rendus capables d'obéir à ses lois, progressivement de mieux en mieux, vers cette liberté absolue à venir. Et c'est ce que représente la merveilleuse fête de la Pentecôte que nous célébrons aujourd'hui. Il y a beaucoup plus dans la fête qui peut paraître au point de départ. C'est pour ça que je vous donne tous ces détails et que je mets ensemble un certain nombre de versets qui nous donnent cet éclairage. Lors de sa première venue, au tout début de son ministère, tout de suite après la tentation au désert, Jésus a proclamé cette liberté totale dont je vous parle, mais il l'a fait de façon spéciale et de façon partielle, comme je vais vous montrer. Reportez-vous à l'évangile de Luc, s'il vous plaît. Luc, chapitre 4. Luc, chapitre 4, nous allons lire les versets 16 à 19. En parlant de Jésus, il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. La bonne nouvelle, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs, à ceux qui sont prisonniers, la délivrance, la liberté, et aux aveugles, le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres encore les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Voilà. Jésus ici citait, c'est intéressant, parce que là, il citait ce que lui-même, Jésus, avait inspiré le prophète Ésaïe d'écrire. Il citait les mêmes mots que lui avait dit à Ésaïe d'écrire. C'est ce qu'il faisait ici, au sujet, justement, de la vraie liberté. Regardez maintenant le verset 20 et 21. Ensuite, une fois qu'il a arrêté sa lecture, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Verset 21. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole que vous venez d'entendre, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, est accomplie. » Ce qu'il venait de lire, de la vraie liberté s'accomplissait devant eux. Il a accompli cette partie-là de la prophétie. Toutefois, notez que le Christ n'a cité que la première partie du passage en question, celle concernant sa première venue. Il a parlé seulement de la partie du témoignage d'Ésaïe qui concernait sa première venue, et il était arrêté là. La deuxième partie du passage montre ce que le Christ fera bientôt lors de sa deuxième venue sur la terre. Ça vaut la peine qu'on aille vérifier dans Ésaïe. Reportez-vous à Ésaïe au chapitre 61, s'il vous plaît. Ésaïe, chapitre 61. On va voir ce que le Christ a cité de lui-même, de ce qu'il avait déjà inspiré Ésaïe d'écrire. Ésaïe 61, verset 1, jusque là où il s'est arrêté. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Alors là, le Christ s'est arrêté là, lorsqu'il a cité ce passage-là dans le Nouveau Testament. Maintenant, regardez ce qui est mentionné après. Un jour de vengeance pour notre Dieu. Alors, un jour de vengeance pour notre Dieu. Qu'est-ce que c'est que ce jour de vengeance pour notre Dieu? Ça, c'est l'année de la colère de l'agneau, c'est-à-dire la dernière année des 3 années et demie de la grande détresse. Ça, il n'en a pas parlé à ce moment-là. Il a parlé seulement de l'accomplissement de ce qu'il a fait au moment où il était avec eux. Alors ici, il parle de la dernière année des 3 années et demie de la grande détresse. Et après, il dit encore « pour consoler tous les affligés ». Et c'est intéressant parce que, à partir de là, il parle de ses fidèles serviteurs. C'est de eux dont il est question ici. Pour consoler les affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Et il parle ici des fidèles serviteurs du temps de la fin, que nous sommes si nous tenons bon. Voyez-vous? Là, il entre dans ce qui nous attend, nous. Il dit pour nous donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, comme il nous arrive d'avoir. Ça sera terminé. Je vous ai dit tantôt que toutes ces choses-là seraient passées lorsqu'on sera rendu là. Afin qu'on les appelle, vous et moi, si nous sommes fidèles, des térébintes de justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ça, c'est vous et moi, ses fidèles serviteurs. Et il en parle plus loin ensuite dans le verset 6. Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. On vous nommera serviteur de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations. Et vous vous glorifierez de leur gloire. Vous serez à la tête des nations pour les servir, pour les aimer, pour les aider, pour leur révéler la vérité. C'est formidable. Un temps de grande libération. Un temps de totale libération. Ce sera le moment, comme il est écrit dans Michée, chapitre 4, versets 1 à 4, un temps où il est écrit que les gens habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier. Et regardez bien le reste de la phrase. Et il n'y aura personne pour les troubler. Les êtres humains vont vivre en paix. Il n'y aura personne sur la planète pour les troubler une fois que ces choses-là seront établies. On parle encore ici de liberté totale quand la paix sera établie sur la planète. Ça, c'est le temps où l'univers physique délabré, comme on le voit, et qui continue à se délabrer, le temps où la création qui est abîmée sera ramenée à sa gloire originelle. Romains, chapitre 8. Romains, chapitre 8. C'est formidable. Ce qu'on voit se détériorer avec tellement de tristesse autour de cette belle création. Les hommes sont loin d'être parfaits, parce que s'ils étaient parfaits, il y aurait détruit la planète au complet. C'est abîmé et ça le sera encore plus. Quand on pense aux conflits qui s'en viennent, aux guerres qui viennent, quand on voit le délabrement des pays qui sont en guerre actuellement, et quand on pense que c'est rien, à côté de la grande détresse qui vient et de la multiplication des conflits, la création sera vraiment grandement abîmée. Mais regardez la promesse de Dieu ici, ça c'est fantastique, et ça fait partie de la libération totale qui vient non seulement pour nous et pour les êtres humains qui auront survécu à la Troisième Guerre mondiale, mais ça va s'appliquer également à la belle création de Dieu qui va retrouver ses qualités du début. Romains 8, lisons les versets 19 à 21. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est quoi cette révélation des fils de Dieu? C'est pas parce que les fils de Dieu vont leur dire, vont dire quelque chose à la création. C'est que les fils de Dieu soient révélés, soient manifestés en tant que fils de Dieu. Le jour où ces appelés fidèles seront transformés en êtres divins, glorieux. C'est à ce moment-là, attend avec un ardent désir la révélation ou l'apparition ou la manifestation des fils de Dieu en tant qu'êtres divins. Verset 20, « Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie, c'est-à-dire libérée de la servitude de la corruption. » Vous, c'est une forme d'esclavage, la corruption, qui a été imposée à la belle création de Dieu, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Tout ça va s'enclencher en même temps. La puissance de Dieu va se manifester d'une façon tellement extraordinaire et frappante à ce moment-là. Alors, voyez-vous, notre destinée ultime, c'est d'atteindre la liberté totale, la liberté absolue, la liberté éternelle en tant qu'enfant né de Dieu, devenu être divin dans la famille divine. Nous serons alors entièrement libérés de toute peur, de toute tentation, de toute limitation. Nous serons exactement comme Dieu est. Nous serons exactement comme Dieu est. Reportez-vous à 1 Jean chapitre 3. Ça, c'est un passage qui me réjouit chaque fois que je le lis. J'aime tellement. 1 Jean chapitre 3. Commençons au verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Et c'est vrai, il faut dire qu'il nous aime de loin, parce qu'on était ennemis avant qu'il nous appelle. Il nous a aimés de très loin. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. À partir d'ennemis que nous étions, il fait de nous ses enfants lorsque nous nous soumettons à lui. Et nous le sommes, nous sommes ses enfants. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Le monde ne peut pas comprendre ce que nous sommes, absolument pas. Et on ne peut pas leur reprocher. Ça ne leur est pas donné, ça leur sera donné plus tard. Nous, on a à faire ce qu'on a à faire et on n'a pas à reprocher à personne de ne pas comprendre. Absolument pas. Si Dieu ne nous avait pas appelés, on ne comprendrait pas non plus. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Oui, mais quand vous passez sur la rue ou que vous êtes dans un centre commercial, personne ne vous identifie comme un enfant de Dieu. Extérieurement, ça ne me paraît pas. Sauf, et j'espère que c'est le cas, dans votre comportement. Là, ils vous trouvent gentil, aimable, poli, mais ils ne savent pas que ça vient de Dieu. Ils ne comprennent pas, ils ne vous connaissent pas vraiment. Plus tard, ils vous connaîtront quand eux aussi seront appelés. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Ça ne paraît pas à l'extérieur, à part de notre attitude, comme je vous dis. Mais nous savons que lorsque le Christ paraîtra, qu'est-ce qui va se passer? Nous serons semblables à lui. On sera pareil au Christ. C'est ça que ça veut dire. Parce que nous le verrons tel qu'il est. C'est fort. Et c'est pour ça qu'il revient après, à notre part de responsabilité. Verset 3. Quiconque a cette espérance extraordinaire en lui se purifie comme lui-même est pur pour arriver à ce grand but qu'il nous montre. Non seulement nous allons être de même nature que Dieu, mais réalisez-vous que nous allons avoir les mêmes caractéristiques. Nous n'aurons jamais son autorité et son expérience, non. Il sera toujours notre grand Dieu et on va toujours l'adorer, le remercier, le reconnaître. Mais on aura les mêmes caractéristiques que lui a. Nous jouirons de la même liberté totale, complète qu'il a lui-même. Écoutez, Dieu ne s'inquiète pas de la nourriture. Dieu ne s'inquiète pas du vêtement. Dieu ne s'inquiète pas de son logement. Dieu ne craint pas l'avenir. Pourquoi? C'est lui qui le détermine. Voyez-vous, il n'a aucune crainte. Ce sera pareil pour nous. Il ne craint pas non plus d'être malade. Il ne craint pas d'être blessé, ni de mourir. Il connaît la réponse à tout. Il a un contrôle parfait sur sa pensée, sur ses réactions, sur ses facultés, et comme j'ai mentionné, il a un contrôle parfait sur l'avenir. On parle d'une autre dimension d'existence. Dieu est vraiment libre, exempt de toute peur et de tout besoin, et profondément heureux. Il a le bonheur de donner. Et il attend de nous donner plus encore que ce que nous avons maintenant, parce qu'il veut nous donner tout, parce qu'il a en tête que nous devenions les héritiers de toutes choses, co-héritiers du Christ. Voyez-vous son grand plan pour nous, et pour lui, c'est un bonheur de faire ça, d'accomplir son plan. C'est ce qu'il veut, de tout cœur, pour chacun de nous. Si nous persévérons en comptant sur lui, par le Saint-Esprit, de la Pentecôte, il nous garantit cette même liberté absolue. Moi, je vous dis, rêvons-en. Ce n'est plus qu'une question de temps.